Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Simon Lessard, responsable de l'innovation et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe. Il nous parle de l'isolement croissant qui caractérise nos sociétés, renforcé par la crise sanitaire. Le meilleur antidote, tenez-vous bien, la solitude, relation fondamentale et condition de toutes les autres. Au-delà, qu'est-ce que la science, la sagesse judéo-chrétienne et Dostoïevski peuvent nous apprendre sur la solitude humaine? Mais tout d'abord, Louis Bouchard, chroniqueur économique, évoque la dette colossale créée par les plans de sauvetage mondiaux pour contrer les effets de la pandémie. De nombreux économistes pensent qu'on pourrait tout simplement l'effacer puisqu'elle est détenue en grande partie par les banques centrales de chaque pays. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Louis, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors, on va parler de pandémie, encore une fois.
Pas
toujours vous, mais c'était encore une fois le sujet. C'est toujours le sujet, pas à la mode, le sujet le plus prégnant.
Oui.
On commence avec trois nouvelles brèves.
Oui, fidèle à notre habitude. Alors, voici les trois nouvelles à saveur économique de la semaine dernière que j'ai retenues pour vous. Écoutez, ça, j'ai tiqué quand j'ai lu ça. L'université laurentienne de Sudbury veut se mettre à l'abri de ses créanciers. Une université, là, imaginez-vous. L'annonce a été faite mercredi dernier, alors que l'université se mettait sur la protection judiciaire, un peu comme une compagnie qui n'arrive plus à payer ses créanciers. Donc, il y a la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ça, c'est avant de faire faillite. On s'assoit avec les créanciers, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le recteur de l'université, Robert Haché, a expliqué que la procédure avait été mise en œuvre après une mûre réflexion et à l'invitation du Conseil des gouverneurs. Ça veut dire qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités parce que l'université fait face à des défis financiers sans précédent. Le recteur souligne que c'est la première étape qui devrait prendre environ 3 mois. On s'assoit avec les créanciers, on regarde ce qu'on peut couper. Et après ça, l'université devrait disposer d'un beau cadre structuré qui devrait être, on espère, viable et clair. Il faut rappeler que c'est une institution qui est importante pour les Franco-Ontariens là, dans le Nord parce qu'elle est en principe bilingue. Ça veut dire que certains cours sont donnés en français. Il faut dire qu'ils font de la dette puis des déficits depuis des années. L'an dernier, ils ont fait un déficit de 7 millions de dollars.
Puis là, avant la pandémie ou pendant?
Avant la pandémie, oui. Avant la pandémie, et ça seulement pour une année, 2019.
Ouais.
Là. Et donc, et ça faisait des années comme ça qu'ils accumulent les déficits et puis à la fin, ça fait une dette. Cette année, on pense que ça va aller entre 5 et 10 millions de dollars à cause de la pandémie. Quand même, il y a 600 employés. Je pense qu'il y a de nombreux programmes qui vont être supprimés. Lorsque moi, j'étudiais à McGill, j'avais pris une série de séminaires avec un étudiant à l'époque qui s'appelait Louis-Philippe Rochon et qui faisait sa maîtrise sur Keynes, puis il a fait son doctorat par la suite, puis qui est devenu professeur là-bas. Il est encore là-bas. Je suis allé voir sur son site. Il enseigne encore depuis une vingtaine d'années, puis c'est le grand spécialiste de Keynes là-bas. Chose curieuse...
Mais l'économiste Keynes, oui.
Oui, exactement. Le syndicat de la fonction publique canadienne qui représente les membres là-bas, ils ont émis un communiqué en disant que, c'est la faute du gouvernement provincial, le gouvernement Ford, il n'y avait pas suffisamment financé le secteur de l'éducation postsecondaire. Mais moi, je vous l'annonce, là, si vous faites des déficits courants comme ça, au sortir de la pandémie, là, il va y avoir des choix douloureux à faire, puis on ne pourra pas tout financer. C'est un peu dans le même ordre de notre grand sujet cette semaine. Alors, deuxième
nouvelle. On va y arriver. Donc, vous parlez de l'Université laurentienne de Sudbury qui veut se mettre à l'abri de ses créanciers. Espérons que pour les Franco-Ontariens n'en pâtissent pas trop. Ils n'ont pas beaucoup d'universités. Voilà. Deuxième nouvelle, Louis.
Oui. Le groupe Amazon a annoncé mercredi dernier que son fondateur, le multimilliardaire Jeff Bezos, se retirerait de son rôle de directeur général. C'est quand même quelqu'un d'important. Il veut se retirer au troisième trimestre, ça veut dire en septembre-octobre de cette année. Il a déjà choisi son successeur, c'est un monsieur qui s'appelle Andy Jassy, qui est actuellement le chef des services web du groupe basé à Seattle. On pense souvent que Amazon... Ça vend des livres, des électroménagers.
Oui.
Mais une des grandes composantes, je dirais, qui a été fondée en 2003, c'est la branche cloud ou les serveurs dans les nuages, pour ainsi dire. Donc, imaginez, vous êtes une entreprise, puis vous voulez vous débarrasser de votre système informatique parce que vous êtes une banque, par exemple, puis l'informatique, c'est peut-être pas votre cible principale. Donc, on appelle ça de l'impartition. Donc, ils vont vous offrir de loin, évidemment, aujourd'hui avec les technologies de communication, et c'est très payant. C'est moins connu du grand public, mais c'est devenu un des secteurs les plus profitables du groupe. Et c'est un, ce secteur-là domine devant Microsoft et Google même. Donc, c'est une annonce qui intervient alors que l'entreprise va très bien, on le sait, parce que durant la pandémie, évidemment, son chiffre d'affaires a explosé. Son bénéfice au dernier trimestre de l'an dernier était de 8 milliards de dollars canadiens environ. Donc, donc l'entreprise aujourd'hui vaut à peu près 2 billions de dollars. C'est 2 000 milliards de dollars. Et M. Bezos, ben, il en vaut à peu près 400 milliards de ça. Donc, il va prendre sa retraite, mais il n'est pas à plaindre, pour ainsi dire.
C'est plusieurs fois le budget du Québec, j'ai l'impression, oui, 2 billions de dollars canadiens en bourse. Oui. Troisième nouvelle, Louis.
Oui, ben, la secrétaire du Trésor étatsunienne, ça c'est la ministre des Finances, Janet Yellen, s'est inquiétée dimanche d'une stagnation du marché de l'emploi aux États-Unis, tout en disant espérer un retour au plein emploi l'an prochain. Si le plan de sauvetage de l'économie qui est proposé par Joe Biden passait, évidemment, on le sait, il veut dépenser environ près de 2 billions, donc...
Bezos pourrait peut-être lui donner un peu quelques billions, non?
Exactement. Vous voulez pas,
ils ont, ils valent 2 000 milliards.
Oui, exactement. Et je la cite, là, ici, je trouvais ça quand même important. J'ai bien peur que le marché de l'emploi soit en train de stagner. Ça, c'est important. Puis elle faisait référence au rapport de l'emploi aux États-Unis qui a été publié vendredi dernier, puis qui était pas bon. Elle disait qu'il y a environ 10 millions de nos citoyens qui sont sans emploi. Il y a 4 millions de gens qui sont sortis volontairement. Ils trouvent plus rien, donc ils se disent je suis découragé ou quelque chose. Donc, elle rajoute, nous sommes dans un gouffre et en ce qui concerne le marché du travail, on n'est pas encore sorti. On est loin d'être sorti. Bon, la secrétaire du Trésor en a profité pour apporter son soutien au plan de sauvetage de l'économie qui est proposé par le président Biden. Évidemment, le dimanche matin, elle fait le tour un peu des grands réseaux. Donc, ça, elle avait fait ça dans Meet the Press à... Face the Nation, pardon, à CBS. Après ça, elle est allée à la chaîne CNN et là, elle a dit à peu près la même chose, mais en rajoutant qu'il y a des millions d'États-Unis qui font face au risque de perdre leur logement dans les mois à venir. On sait, il y avait un moratoire sur les expulsions de votre appartement. Donc, la pandémie, elle diminue. On sait que les chiffres, sont un peu plus...
Depuis trois semaines, le taux de contamination vient de baisser à le monde. Oui. Pardonnez-moi, est-ce que Janet Yellen est allée chez Fox ou alors elle va chez Fox, les copains?
Non, elle n'est pas allée. voilà. Ce qui nous amène quand même à notre sujet de la semaine.
La pandémie et la dette créée par ça.
Voilà, la dette publique. Il y a un gros débat, je dirais, qui chauffe à blanc les économistes européens depuis quelques jours. En gros, ils se demandent pourquoi rembourser la dette. Question existentielle.
C'est bizarre. Quand on a une dette, on la rembourse. Il nous reste 10 minutes, hein, Louis.
Oui. Alors, si on résume un peu, si on remonte avant le crack de 2008, souvenez-vous, l'économie roulait bien, l'optimisme était de rigueur, mais les États, les entreprises, les individus faisaient de la dette. Oui. On a développé des mauvaises habitudes. Puis en septembre 2008, la machine s'est grippée suite au prêt subprime. Plusieurs États ont dû voler au secours de leurs institutions financières en les soutenant. Mais comment ils ont fait ça? Ils ont fait de la dette. En 2011, c'est des pays comme la Grèce qui commencent à avoir des problèmes, suivi de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Alors, on met sur place des programmes de stabilisation, mais on fait toujours de la dette.
Mais c'est sur le dos des contribuables, ça, ou c'est sur le dos des États?
Exactement, toujours. C'est sur le dos des contribuables au final, quand même. Donc, depuis ce temps-là, on essaie de retrouver, je dirais, les niveaux de croissance puis d'emploi d'avant 2008. Je dirais qu'on commençait à s'en rapprocher en 2019, puis là, est survenue la pandémie. Donc, pour soutenir l'économie, bien, les États ont décidé de soutenir les entreprises et les individus avec des programmes comme la PCU au Canada. Mais pensez aussi aux multiples aides et prêts aux entreprises qui devaient être juste temporaires. Le temps que le virus disparaisse, il fallait le faire. On ne savait pas trop où on s'en allait. À l'époque, c'était pleinement justifié parce qu'on avait mis l'économie en quarantaine pour protéger les individus. Mais il y a un revers un peu pervers à tout ça, c'est qu'on maintient en vie des entreprises et des individus qui auraient autrement fait faillite. Je regardais les statistiques au Canada, il y a de moins en moins de gens qui font faillite ces temps-ci parce qu'il y a un soutien gouvernemental à leur entreprise ou aux individus, mais on estime qu'il y a 15 à 30 % des entreprises qui sont dites zombies, qui sont maintenues.
C'est presque un tiers.
Ben oui.
Enfin, entre un quart et un tiers.
Oui, et ça fait en sorte que quand on va revenir à une espèce de vie normale, ben il y en a beaucoup de ces entreprises-là qui passeront pas à travers.
Mais donc, revenir à une vie normale, ça va prendre des élections fédérales, non? Vous pensez pas?
Oui, exactement. Et bon, ça c'est pas dit que on verra dans quelques mois. Mais à l'époque, on se disait, on soutient les entreprises, les individus comme ça, parce qu'on espère que le vaccin va arriver rapidement. Moi, je me souviens de notre insouciance collective. C'était là, on avait l'impression, mais là, le déploiement du vaccin, il connaît des ratés au Canada puis ailleurs. La dette publique explose ici au Canada. Mm-hmm. Cette année, ça va être presque 400 milliards par rapport à 35 milliards en 2019. Là, on est passé quand même. Bon, en France, la dette, ça représentait 100 % du PIB avant 2019, puis elle est maintenant 120 %. 20 points en un an, ça vous donne une idée de l'ampleur du déficit étatique.
Louis Bouchard, je disais en introduction que les banques centrales possèdent la dette en grande partie. Donc, c'est ça l'objet de votre intervention aujourd'hui. C'est que, est-ce qu'on peut, cette dette, est-ce qu'on peut juste l'effacer, puisqu'elle est souveraine?
Oui, elle est souveraine. Donc, pour ainsi dire, la Banque centrale, les marchés étaient insécurisés au mois de mars, pour ainsi dire. Puis c'est elle qui a moppé, pour ainsi dire. Là-bas, ils vont utiliser le terme serpillière, mais ici au Québec, on dirait. Et la Banque centrale...
La vadrouille.
À la vadrouille, elle a acquis finalement ces obligations-là. Donc, il y a plusieurs économistes qui posent la question, mais pourquoi pas annuler cette portion de la dette puisqu'on se la doit à soi-même? Donc, il semble y avoir une certaine logique derrière ça. Donc, vendredi, il y a eu 150
C'est tous les économistes ou c'est un débat local ou c'est un débat international?
Certains économistes. Ça a commencé comme... une discussion franco-française sous Thomas Piketty. Mais vendredi, ils ont eu une tribune qui a été publiée dans Le Monde, mais qui a été reprise aussi dans El País en Espagne, dans La Libre Belgique, dans Freitag en Allemagne, en Italie aussi. Et là, on se dit quand même...
Dans Le Devoir aussi, non? Ici,
oui, c'est dans Le Devoir, samedi, ils ont... Oui, samedi, ils ont repris aussi. Exactement. Donc, ces économistes-là, ils jugent qu'on pourrait se débarrasser de cette partie de la dette, parce que c'est de l'argent qu'on se doit soi-même. Mais c'est de l'argent, c'est 2,5 billions d'euros, là, c'est pas rien. Donc, pour eux, je dirais, ces annulateurs, il suffirait d'effacer avec comme seule contrepartie, ce qu'ils voudraient, c'est pas juste effacer pour effacer, c'est que les membres de l'Union européenne doivent investir les mêmes montants que la dette est effacée pour la reconstruction. Donc, en principe, on effacerait, on recommencerait, mais on investit dans la transition énergétique.
Ah oui, il faut que ce soit vert, évidemment. Il nous reste à peu près un peu plus de 5 minutes, Louis Bouchard.
Oui, donc, on cherche ce moyen pour relancer l'économie une fois la pandémie terminée. Mais l'idée d'annuler dans les livres de comptes de crédit, c'est pas rien, là. C'est pas juste, je dirais, un arrangement d'écriture qui cherche à effacer. Les anglophones parlent souvent de window dressing. On réaménage avec une autre couleur, peut-être, mais ça change pas la situation économique réelle. Il n'est pas déraisonnable de penser que l'affichage réel, il y a une certaine importance. Sans ça, nos gouvernements, ils vont se dire « Ah, ben on peut continuer à dépenser sans retenue. » En fait, l'annulation des dettes détenues par le BCE, moi, je dirais que ça n'a pas une très grande utilité. Premièrement, parce que ces temps-ci, cette dette-là, elle ne coûte pas grand-chose parce que les taux sont bas. Bon, les taux vont peut-être remonter, mais pour l'instant, et en plus, la Banque centrale, elle paye des intérêts puis elle reverse aux États des dividendes. Donc, ils en profitent aussi. Donc, présentement, c'est à peu près à somme nulle. Et deuxièmement, c'est que la dette n'est pas intégralement remboursée à toutes les fois qu'elle arrive à échéance. Très souvent, on va réemprunter de l'argent, donc elle roule cette dette-là. Christine Lagarde, la patronne de la BCE, a tenté de leur répondre
européenne,
ouais, dimanche, dans une entrevue au Journal du Dimanche à Paris. Petite parenthèse, en France, ça a de l'air que ça se passe par jour d'eau interposé, alors qu'aux États-Unis, ça se passe par la télévision.
Donc, et ici, par mon émission.
Oui, exactement. Donc, selon Christine Lagarde, l'annulation de la dette détenue par l'institution qu'elle préside, c'est un mot assez fort, c'est inenvisageable.
Donc c'est non.
Non. Elle avance un argument qui est juridique. Selon elle, ça violerait le traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. C'est vrai. Oui. Sous le traité de Maastricht, par exemple, on parle d'une règle de 60% de la dette et 3% du déficit annuel.
Mais c'est même pas indiqué. On est carrément pas là-dedans.
Exactement. Donc, on brise déjà les critères de Maastricht. Mm-hmm. Bon, je dirais que...
Il y a une autre objection, je pense,
oui,
non, Louis?
Ben, oui, je dirais qui est plus politique, celle-là. C'est que le programme des annulateurs, pour ainsi dire, il passerait pas en Allemagne ou aux Pays-Bas. C'est des pays qui ont déjà avalé pas mal de couleuvres. Ils ont déjà consenti difficilement à la mutualisation des dettes pour un plan de relance européen de 750 milliards d'euros.
Pardonnez-moi, Louis, une mutualisation des dettes, c'est quoi ça?
Ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble pour financer 750 milliards de dollars. Donc, ils avancent un petit peu de capital et ils empruntent tous ensemble. Donc, ils peuvent aller chercher avec peut-être 50 milliards, 750 milliards d'emprunts. Puis, ils se disent tous garants de cette... les Allemands, ils ont décidé, il fallait le faire parce que la pandémie, c'est important. Mais je dirais, ce qu'on oublie dans tout ce débat-là, c'est les autres dettes. Les dettes privées des individus puis des entreprises, elles...
Qui n'ont rien à voir avec la COVID, cette fois-ci.
En partie parce que quelquefois, ils sont arrêtés. Oui. Pensez au secteur de l'aviation. Les frontières sont fermées. Donc, Air Canada, Lufthansa, Air France, ils peuvent pas. Et beaucoup de celles-là ne pourront pas être remboursées. C'est un peu le leitmotiv de l'économiste Michael Hudson de l'Université de Missouri, qui lui le dit, c'est pas les dettes étatiques sur lesquelles on devrait... Quand on va sortir la pandémie, là, il y a un risque élevé de faillite dans des entreprises privées. Pensez les restos, les compagnies aériennes, les hôtels, les chaînes de boutiques de mode, les propriétaires fonciers de toutes sortes, les centres d'achat commerciaux, industriels, puis même résidentiels. Donc, toutes ces dettes-là, si ça se met à tomber, à débouler d'un seul coup, ça va se retrouver au passif des banques commerciales et au privé, c'est elles qui vont être annulées. Et donc, ça risque de faire mal. Et si en même temps, les dettes publiques seraient effacées, bien là, qui est-ce qui va, par la suite, nous aider à sortir de ça?
Donc, mais il y a un pays, c'est la Chine.
Oui, qui a des liquidités, mais c'est à peu près un des seuls qui en a encore, là, ou quelques Émirats arabes. Mais donc, ça va être important à ce moment-là que le secteur public soit en mesure, selon moi, de payer sa dette, parce que les détenteurs de dette, eux, ils veulent s'assurer, les obligations des banques ou des actions des banques au sortir de la pandémie, ça risque de branler un peu. Donc, c'est un beau débat quand même. Je dirais, si ça vous intéresse, ce matin, il y a un très bon éditorial dans lemonde.fr à ce sujet, qui est libre très souvent.
Pardonnez-moi, Louis, oui, on peut le voir gratuitement. Oui. Louis Bouchard, vous êtes en 30 secondes, mais j'entends pas souvent ce genre de commentaires parmi les économistes ici. On a l'impression que c'est préoccupant, la situation, mais vous nous prédisez presque l'apocalypse.
Non, pas l'apocalypse. Écoutez, dans les restaurants, les hôtels, ça rouvre, ça ferme, mais ça va arriver en même temps. Et donc, les hôtels, les restos, tout le secteur du tourisme, par exemple. On risque d'avoir des problèmes. D'où l'importance d'avoir un secteur stable à ce moment-là et qui risque d'être le secteur public qui, lui, ne doit pas être... il doit être en mesure de nous aider à ce moment-là. Mais comme vous le dites, il y aura des élections aussi. On pourra débattre peut-être un peu de ça.
Oh mon Dieu, quelle jolie perspective. Oui. Louis Bouchard, merci beaucoup. Vous nous donnez cette chronique économique tous les mardis à 12h15. À la semaine prochaine.
Comme toujours.
Merci Louis. À venir sur les ondes de Radio VM, isolement n'est pas solitude, ou solitude n'est pas isolement. On vous revient après la pause.